Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédences petites bourgeoises de la bonne santé.
Et tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre problème?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Ah, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle émission du mois de janvier de Scène de vie, vie de scène. Bonjour Nathalie.
Bonjour JC, bonjour à tous et à toutes, et une bonne année en ce début 2012, une bonne année, j'ai envie de dire, culturelle.
Et de sortie, bien entendu.
Bien entendu.
Alors pour cette, justement, nouvelle année, nouvelle première émission de cette année, nous vous avons concocté un sommaire encore passionnant, on l'espère. Nous allons vous parler de création contemporaine portugaise.
Et oui, allons voir un petit peu comment les artistes et les créateurs lusophones là proposent dans le domaine de la danse, mais également de la musique.
Nous rencontrerons également, plus exactement, nous aurons au téléphone Pierre Carniaux pour le Ciné-Scène.
Alors Pierre Carniaux est un réalisateur de cinéma, il vient de réaliser un film, son premier film, Last Room, et il est également le programmateur de la manifestation Ciné-Scène qui se déroulera à partir du 24 janvier à Évreux.
Début janvier oblige, nous vous parlerons de l'Épiphanie.
Oui, c'était un clin d'œil culturel, mais aussi un peu gastronomique autour de cette fête que nous célébrons aujourd'hui.
Vous retrouverez l'agenda en fin d'émission.
Oui, nombre de sorties finalement, dès la rentrée, il ne faut pas perdre les belles et les bonnes habitudes.
Et nous terminerons l'émission en faisant un petit tour avec la musique dans le monde. Mais tout de suite, sans plus attendre, commençons par notre prise de son traditionnelle, un moment de vie. Mais quelle ambiance, j'ai envie de te dire, Nathalie.
Mais quelle ambiance, on sent que ça grouille et que ça a fait la fête. Alors, c'était à l'abordage le 15 décembre dernier.
Exactement, à l'occasion de la fête de la soupe où nous avons laissé traîner notre micro comme dans nos habitudes.
Ben voilà, et là, il y avait plutôt du monde, ça grouillait entre des spectateurs et le monde associatif, une partie du monde associatif d'Évreux, mais aussi des alentours, pour se retrouver et faire la fête et écouter un bon groupe aussi avec la caravane passe.
Alors, le concept pour les gens qui n'y ont pas été.
Mais ils pourront se rattraper l'année prochaine.
Absolument, ils pourront se rattraper l'année prochaine. C'est ouverture des portes donc de la salle en fin de journée, 19h, je crois, ou 19h30.
19h ouverture des portes.
Il rentre et il découvre une partie de la salle de l'abordage avec des associations qui viennent présenter leurs soupes. Alors, il y avait bien une vingtaine de soupes proposées, différentes, toutes toutes différentes d'ailleurs.
Oui, avec des goûts, des saveurs, des soupes chaudes, des soupes froides.
Et donc, à l'entrée, à la présentation de votre billet ou à l'achat de votre billet, vous avez un bol, une cuillère, une petite serviette. Et vous êtes invité durant une heure et demie à partager la soupe avec les associations et avec les autres personnes du public, ce qui incite la discussion et l'échange.
Et là, on remarquait en effet que les gens eux-mêmes, les spectateurs eux-mêmes se parlaient entre eux, mais évidemment avec les membres de l'association qui étaient des fois des responsables et des bénévoles ou des bénévoles. Et voilà, ça permettait de connaître déjà l'existence d'associations. Alors là, on va pas tous les citer parce qu'on en a une vingtaine, mais ça crée vraiment du lien collectif, festif, de la curiosité, de l'échange autour de la recette, parce qu'il y avait donc un petit livret qui était très bien fait avec les recettes de chaque soupe élaborées par les associations, et c'était vraiment le moyen de se rencontrer et d'avoir ce support finalement qui est assez convivial, qu'est la soupe, pour pouvoir échanger.
Il y régnait quasiment une ambiance de fête de village,
oui.
Je trouve. Autour d'un repas, on a l'impression que les choses se passent plus simplement.
Mais l'humain est quand même plus chaleureux autour de la nourriture, j'ai l'impression. Dans quelque pays que ce soit, voilà, c'est vital, comme on dit, et en même temps rassembleur. Et ce qui était assez, assez intéressant et agréable, c'était de voir aussi le public, famille, vraiment une mixité des gens qui étaient là pour partager ce moment.
Et en deuxième partie de cette soirée.
Donc après une heure de partage de soupe, une fois, et je sais que certaines sont bien parties d'ailleurs, il y a eu des succès. Et donc après, hop, les gens circulaient juste à côté pour le concert donné. Et là, ça a été la fête. Et la danse aussi, on peut dire, avec la caravane passe, où là, ce groupe de Plechti, bien évidemment. Hein, et a mis l'ambiance dans l'abordage et pour le public.
Une espèce de fanfare électro, un mélange voilà, entre de la musique un peu électronique, rock parfois.
Rock, un peu aussi influence tzigane par moment. Enfin, une musique d'un monde improbable, mais qui emmène vraiment toutes les personnes. Et c'est vrai, quand on l'avait présenté à la précédente émission, celle de décembre, on voit que dans tous les pays du monde, parce que là on peut dire que ce groupe va dans tous les pays du monde, et à chaque fois c'est la même fête, c'est la même convivialité.
Cette préparation aussi avec la soupe en amont, mais les gens peut-être en condition, qui fait que il y a eu de la farandole, il s'est passé un tas de choses. Comme je disais, ça ressemblait à une place de village.
Oui, voilà, on se retrouvait, on se refaisait la fête comme avant, vraiment, et on se lâchait. C'était vraiment l'idée de danser, de se faire plaisir, de s'amuser.
Voilà, donc un petit extrait de ce qui s'était passé durant la fête de la soupe le 15 décembre dernier. Nous faisons notre première pause musicale, sans vous cacher notre joie, de réécouter...
Un titre du dernier album des Black Keys, parce que c'est quand même, on peut le souligner, un album magnifiquement bien fait. Je dirais, il n'y a rien à acheter sur l'ensemble des titres. C'est du tout bon, du début à la fin.
Vous pouvez nous croire, un album qui marquera l'histoire. The Black Keys, extrait de l'album El Camino. Gold on the Ceiling.
gonna get my coat on the ceiling. I ain't blind, just a matter of time before you steal it. It's alright, ain't no God in my
de l'excellent album El Camino. Voilà, sorti en décembre dernier.
Oui, récemment.
Eh bien, nous allons faire un petit tour maintenant du côté du Portugal, pays coincé entre l'océan Atlantique et l'Espagne, et dont nous n'avons pas forcément une représentation très précise du milieu artistique et de ce qui s'y passe, hormis le fado, qui est un grand classique de la culture portugaise. Mais que s'y passe-t-il donc d'autre au Portugal et où en est la création artistique portugaise ?
Oui, donc c'est vrai que le Portugal, on connaît à travers sa dimension touristique, Lisbonne, ou les côtes, les plages vraiment de l'Atlantique. Et notamment, d'un point de vue culturel, c'est vrai que quand on interroge les personnes, c'est avant tout la musique et le fado qui viennent. Alors évidemment, Lisbonne fait partie de l'Europe, hein, a une dynamique de création quand même assez forte, hein, condensée aussi sur la capitale, Lisbonne, où là on voit nombre de compagnies, et notamment de danse, compagnies de danse qui s'y développent. Et là, la scène nationale Évreloviers a décidé de faire un... Justement, dans aussi son projet, son programme, c'est de montrer un petit peu ce qui se passe à l'international et à l'européen, et ne pas toujours rester concentré sur la création nationale, mais c'est toujours s'enrichir aussi que d'aller voir ce qui se passe justement à l'étranger. Et donc il y a une programmation d'un Focus Portugal qui est présenté là sur cette semaine et la semaine prochaine, et dont on va dire le fer de lance est Tiago Guedes. Tiago Guedes est un jeune danseur et chorégraphe portugais qui a créé un collectif dans ce pays, et un collectif d'artistes contemporains d'aujourd'hui, danseurs, musiciens, plasticiens, comédiens, il y a aussi un travail vidéo, voilà, pour faire aussi promouvoir et diffuser la création contemporaine portugaise. Alors lui vient essentiellement de la danse, Et de la danse, il s'est frotté aussi à l'art visuel, à la vidéo et aux arts plastiques. Et donc, il a créé un spectacle pour jeune public, là, pour enfants, qui s'intitule Matryoshka, qui est présenté en séance scolaire là toute la semaine et qui sera également donné en séance tout public ce samedi 7 janvier à 17h et puis on le retrouvera aussi sur Louviers la semaine d'après le 14. Et là Matryoshka, bah c'est un peu bah comme son nom l'indique hein, le principe dans le projet, le principe des poupées russes hein, où finalement d'une dimension, d'une forme se cache toujours quelque chose derrière. Et encore toujours quelque chose derrière la forme. Puis encore toujours quelque chose de nouveau. On pense que ça y ressemble, mais la dimension, le volume n'est pas la même. Donc voilà, c'est toujours aller dans la recherche d'une forme qui semble identique, mais finalement qui ne l'est pas.
Alors surtout qu'elle est très contemporaine, la Matryoshka.
Oui.
On est dans une esthétique, presque futuriste même, j'ai envie de dire. Au-delà du contemporain, c'est presque futuriste.
On est totalement dans l'abstraction, là. Et en fin de compte, c'est un spectacle où on suscite énormément l'imaginaire, c'est-à-dire que là, le spectateur et l'enfant, on s'aperçoit bien souvent que l'enfant est plus adhérent et imaginatif par rapport à ce type de proposition que l'adulte, hein. C'est-à-dire que bah, dans une forme, l'enfant y voit son histoire, son personnage, sa propre fiction finalement.
Bien sûr que les enfants ont bien plus d'imagination que nous. Est-ce que nous nous verrions jouer avec des cartons vides ?
Hein ?
Et nous avons pu le constater dernièrement, je suppose un peu partout autour de nous, que les enfants savent très bien jouer avec un carton vide.
Oui, ouais, c'est la dimension du jeu. Alors c'est vrai, il y a certains adultes qui arrivent. Hein, une petite parenthèse, moi je connais une compagnie de marionnettes qui travaille avec la poupée et le détournement de la poupée. Et alors là, c'est vraiment l'idée du jeu comme deux enfants qui jouent avec une poupée, mais ça finit toujours un peu mal parce que c'est un détournement adulte du jeu. Voilà. Mais c'est, voilà, je pense que c'est aussi un esprit que de se mettre dans la dimension du jeu et de l'imaginaire. Et les artistes sont assez, assez propices à cela. Donc Matryoshka, une forme extrêmement visuelle. Ça ne parle quasiment pas, ça chante. Par contre, les formes visuelles qui nous sont proposées nous emmènent dans des univers, dans des personnages, dans nos propres personnages. C'est un spectacle qui prend son temps, le temps justement de nous installer dans cette dimension. Il y a une très bonne utilisation des matériaux et notamment du tissu, où le cadre scénique, le principal décor qui accompagne les deux danseurs, c'est une grande toile de lycra derrière laquelle plein de formes étranges vont apparaître. Et tout ça, c'est joué et interprété par les corps des danseurs. Et après, il y a cette espèce de Matryoshka qui, pour moi, ressemble à un nuage spatial. Moi, j'y ai vu un nuage spatial.
Chacun y verra voilà. Ce qu'il aura envie.
Alors, d'autres, des enfants, ils voyaient un gros duvet argenté, d'autres un sac plastique temporel. Enfin bon, c'est les réactions.
On pourrait y voir un barbe à papa.
On peut ici y voir un barbe à papa. Enfin bon, voilà, c'est très très imaginatif, ludique et en même temps extrêmement ludique. Prenant, voilà. Donc c'est pas du narratif, mais nous on se fait sa propre histoire et c'est plutôt assez agréable.
Dans ce cycle de création contemporaine portugaise, il y a d'autres spectacles proposés, notamment autour de la danse.
Oui, avec le spectacle Iman de Filipa Francesco. Alors là, c'est un beau projet de danse et en même temps d'accompagnement social. Enfin, où là, Filipa Francesco, elle a vraiment cette dimension de l'art au service aussi d'un acte politique dans sa démarche artistique. Et Filipa Francesco a travaillé avec un groupe de danseuses, des hip-hoppeuses d'un quartier très populaire de Lisbonne, essentiellement une population originaire du Brésil. Et donc bah, ces femmes travaillaient, répétaient ensemble, dansaient, se réunissaient pour danser du hip-hop et plutôt de la danse urbaine. Et elles ont fait la rencontre avec une chorégraphe et danseuse professionnelle portugaise, Filipa, qui les a emmenées dans cette aventure d'une création d'un spectacle qui mêle sa dimension contemporaine et bien sûr l'identité urbaine de ces danseuses. Ça donne Iman, qui veut dire les aimants, les attractions. Alors ça peut être les aimants comme deux petits aimants qui se rassemblent, puis les aimants, les êtres aimés. Et c'est...
Attention avec les aimants, parfois au contraire, il est impossible de les rapprocher.
Eh oui, des fois c'est, ça s'attire et des fois ça se repousse. C'est un chemin inverse qui peut avoir lieu. Mais là, on est dans la forme de danse qu'elle a choisi de travailler au départ, c'est la batouk. La batouk, c'est une danse africaine, originaire du Cap-Vert, et c'est une danse essentiellement féminine qui repose sur le rythme, la percussion, les pieds. Au Cap-Vert, les batouks, c'est les femmes qui la dansent lors de cérémonies bien particulières. Et c'est une danse des pieds, du rythme. Donc ça a été leur base de travail et de création autour de cela. Et ça donne un spectacle, Iman, qui pour une partie présente la chorégraphie. Alors c'est coloré, c'est chaleureux, c'est rythmé. On y voit chaque danseuse avec sa personnalité propre. C'est des femmes c'est un groupe de femmes de 18 à 26 ans, me semble-t-il, donc assez jeunes. Où des identités féminines sont fortement posées. Et le spectacle est composé donc d'une chorégraphie, mais également d'un film, aussi d'une vidéo, qui présente après tout le projet de travail et de collaboration, de réalisation de ce spectacle à l'intérieur du quartier populaire de Lisbonne. Voilà, ça marque aussi l'aventure pour ces femmes.
Dans ce zoom sur les créations portugaises, bien entendu, il y aura du fado tout de même avec Lula Pena.
Et oui, et là, c'est une forme d'aujourd'hui du fado. Alors le fado, hein, c'est vraiment ce genre musical portugais qui vient au départ des bas-fonds du pays, des quartiers très populaires. On dit qu'elle apparaît entre 1920 et 1940, Portugal. Mais c'est vraiment le chant qui va vraiment interpréter, faire sentir à l'époque, la nostalgie des morts, du passé, cette difficulté de vivre, le chagrin, l'exil, puisque les Portugais étaient aussi des marins, des explorateurs, toute cette aussi misère qu'a connue ce pays au 19e siècle. Voilà, cette force, ce chant, c'était aussi la force des peuples, des gens du peuple aussi, pour pouvoir continuer à vivre, échanger et se remémorer les souvenirs. Alors, c'est un chant qui est extrêmement répandu et très proche des habitants des Portugais, le fado. On écoute le fado finalement très très régulièrement. On va dans des bars, régulièrement dans les bars, il y a des chanteurs de fado. Alors, on connaît, nous, de façon plus moderne, celle qui nous a fait plus connaître le fado, c'est Amália Rodrigues, qui a été vraiment l'ambassadrice du fado un petit peu partout dans le monde. Et avec Lula Pena, c'est la nouvelle génération portugaise de fadistes, de chanteurs, de fado. Et elle mêle évidemment le chant traditionnel, mais aussi la chanson française, la chanson italienne, et surtout le fado qui s'est développé, c'est le fado aussi qui laisse la place à la poésie et aux poètes d'aujourd'hui. Donc avec Lula Pena, c'est aussi une entrée dans les textes et dans les poètes portugais d'aujourd'hui.
Eh bien justement, Nathalie, proposons aux auditeurs d'écouter Lula Pena, l'acte 7 de Troubadour.
Son dernier album.
Quero a rosa rosa, eu quero a rosa sim. E quanto mais eu quero a rosa, mais a rosa me quer a mim. Música. rosa, rosa. Eu quero a rosa sim. E quanto mais eu quero a rosa, mais a rosa me quer a mim. Just to love and be loved in return. It's just to love and be loved in return. It's just to love and be pollen on your nose. You've got pollen on your nose. Where you've been, where you've been. I won't love in the after. I won't love in the afternoon.
Voilà la voix magnifique de Lula Pena, elle seule en guitare. Elle sera sur la scène de l'Auditorium du Cadran le 13 janvier 2012. Et il est temps de présenter maintenant notre prochain sujet avec notamment le ciné-scène et de vous présenter notre invité Pierre Carniaux qui doit être en ligne avec nous.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre. Alors, Pierre, vous êtes réalisateur et vous êtes aussi le conseiller et le programmateur de la manifestation Ciné-Scène qui sera présentée donc à partir du 24 janvier à Évreux dans le cadre de la programmation de la scène nationale. Pierre, d'où venez-vous voilà, quelle est votre actualité?
Mon actualité? Mon actualité, c'est vraiment le Ciné-Scène pour lequel je suis en train de caler les derniers détails pour que tout se passe bien, que tout le monde soit heureux. Mon actualité récente, c'était que mon premier film a été sélectionné en compétition au Festival international du cinéma de Marseille et que donc il a vécu ses premières projections et que maintenant il se promène dans d'autres festivals. Je le présenterai également lors du Ciné-Scène, d'ailleurs, à ce propos, accompagné d'une installation interactive, une proposition de cinéma jouable
oui.
qui accompagne ce film.
Et je crois que donc, ce film, vous avez été tourné au Japon.
On parle de Last Room.
Last Room, voilà,
donc,
qui sera présenté dans la programmation. Alors bien sûr, on reviendra sur la programmation du Ciné-Scène, mais c'est important de vous présenter déjà en tant que réalisateur et dans votre relation avec le monde du cinéma.
Le Japon, c'est une bonne entrée parce que, en réalité, avant d'être réalisateur, j'étais acteur, comédien pendant 10 ans. J'ai joué plusieurs fois à la scène nationale d'Évreux-Louviers. Et l'un de les premiers spectacles dans lesquels j'ai joué était Tokyo Note d'Oriza Hirata, mis en scène par Frédéric Fisbach, donc avec une compagnie franco-japonaise. Et à la suite de ce spectacle, je me suis retrouvé à travailler comme comédien au Japon, comme photographe, et puis assez naturellement, je dirais, puisque mon autre grand rêve avec celui du théâtre était le cinéma, à travailler donc sur ce projet de film qui qui en gros mettent en scène des individus seuls dans des chambres d'hôtel et qui s'interrogent sur leur destinée et celle de leur pays.
Et des chambres d'hôtel bien particulières, hein, puisque je crois que vous avez choisi, dans votre cadre hein, d'interview, de ces personnages, de les présenter dans ces fameux hôtels off, quand même très spécifiques au Japon. Tout ça, c'est un monde clos, quasiment.
Oui, des hôtels capsules. Mm. Bon, je suis vraiment passionné aussi par les chambres d'hôtel. Je trouve que c'est des endroits absolument fascinants où... En gros, c'est des endroits impersonnels, mais où en réalité des mémoires s'accumulent, même s'il n'y en a pas de traces. Et évidemment, au Japon, j'ai été complètement saisi par ces hôtels capsules qui donc pourraient ressembler un peu à une morgue ou à un train-couchette, quoi. Mmh. On est dans un espace tout à fait réduit, on peut à peine s'asseoir.
Et totalement uniformisé.
C'est très clinique, blanc, éclairé au néon. Voilà. Il y a ces hôtels-là et il y a aussi les Love Hotels, qui sont des hôtels à thème, type château en Espagne ou, je sais pas, thème aquatique. Ce sont des hôtels, comme son nom l'indique, pour faire l'amour, mais qui ne sont pas des hôtels de passe, qui sont plutôt des hôtels dont se servent des couples illégitimes ou des jeunes qui n'auraient pas l'espace, un espace intime parce que vivant chez leurs parents. Mmh. Voilà.
Sur votre film Last Room, vous parliez tout à l'heure d'un film avec un volet autour de l'interactivité des spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cet aspect interactif ?
Oui, je suis vraiment très fier et heureux qu'on puisse présenter les deux volets de ce diptyque ensemble à Évreux. Ce sera une première à ce propos. En fait, j'ai travaillé avec un plasticien qui s'appelle Thierry Fournier, qui est assez connu, qui a exposé dans beaucoup d'endroits dans le monde, que on range parfois dans la catégorie qui est un peu bon, qu'on dit artiste numérique, même si il refuse le terme, il est avant tout plasticien. Et Thierry, voyant la forme que prenait mon film, c'est-à-dire des monologues ouverts où les gens pouvaient se confier lors du tournage sur des durées parfois très longues. Et puis moi, explorant les paysages du Japon, parfois aussi de manière très longue, m'a proposé d'imaginer une forme non linéaire du film, où les rushs seraient remis en jeu, et où le spectateur pourrait effectuer son propre montage, en quelque sorte, son propre parcours à travers les images. Donc maintenant, l'installation se présente de la manière suivante. On dispose simplement un iPad, pour ne pas faire de publicité, une tablette numérique, n'est-ce pas, dans la salle de cinéma. Et puis, sur cette tablette, donc sur, il y a une interface avec les images des plans du film, et on se déplace de plan en plan, on peut les surimpressionner, les mélanger, créer de nouvelles images en superposant deux, on peut ralentir le rythme de l'image, aller explorer ce qui se passe 10 minutes plus tard dans la prise, ou y revenir, voilà. Et à notre connaissance, à Thierry et à moi, c'est une expérience où donc en fait on redonne les gestes qui sont habituellement dévolus à la production cinématographique, et en particulier au monteur ou au réalisateur, au spectateur. Et voilà, on met en jeu le spectateur. Il y a une expérience un peu semblable qui a été essayée par un réalisateur un petit peu connu, qui s'appelle Francis Ford Coppola, qui...
Oui, légèrement connu.
Voilà. qui lui, en fait, sur son dernier film, je ne sais pas encore s'il pourra le faire à Paris, je l'espère, en tout cas, je sais qu'il a fait ça à Los Angeles pendant une semaine, avec également un iPad. Il proposait une version de montage différente tous les soirs, en remontant en direct son film. La différence avec Des Plis, donc, qui est l'installation que Thierry a conçue avec les rushs de mon film, Last Room, c'est c'est que Despy, c'est pas le réalisateur qui fait une performance de montage live, c'est vraiment le spectateur qui s'en empare, qui s'empare de cet outil. Et les rushs de l'installation ne sont pas les rushs définitifs du film. Mmh. Le film fait 1h15. Dans l'installation, par exemple, dans le montage définitif du film, un personnage peut s'exprimer 2 minutes, et puis après, pour des questions de narration, de récit, de rythme, moi je vais passer à un autre plan. Dans l'installation, je rétablis l'intégralité de la parole des personnages interrogés.
Donc c'est de permettre à tout à chacun finalement d'aller au cœur d'une réalisation, enfin du coup d'un montage de film, et de s'approprier vraiment une technique qui peut-être n'est d'habitude demande une formation ou des outils, ou là c'est quelque chose de très très direct
qui nous fait entrer direct, dans le monde du cinéma. C'est très aussi sensoriel, oui. C'est un peu comme si on découvrait un instrument de musique.
Et ludique, je pense aussi.
Très enfin, ludique, on avait déjà présenté une maquette de l'installation dans le passé, et puis on avait fait notamment une expérience avec des enfants, mm-hmm. et ils étaient fous de joie, quoi. Mm. Ils voulaient plus s'arrêter.
Alors ça fera partie d'une des programmations du Ciné-Scène, et justement.
Alors Pierre Carniaux, vous êtes également le programmateur de ce Ciné-Scène qui a pour thème cinéma de rêve, rêve de cinéma. Qu'est-ce que ça a évoqué pour vous ce thème de rêve de cinéma, cinéma de rêve?
Bah pour moi le rêve c'est vraiment un espace où on retrouve une liberté totale. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas tout faire dans le monde diurne, mais par contre, dans le monde nocturne, on se libère de tout un tas de choses. On peut aussi défier les lois de la gravité, par exemple, ou j'en sais rien, voyager dans des endroits où on n'a pas forcément l'occasion d'aller.
On peut être des super-héros dans nos rêves.
Pardon ?
Nous pouvons être aussi comme des super-héros dans nos rêves, nous déplacer très vite.
Tout à fait. Ouais.
Voilà, et donc le cinéma permet de retrouver de supprimer justement ces limites de la réalité.
Oui, et puis le cinéma c'est très certainement l'expérience la plus proche que l'on puisse faire du rêve éveillé.
Alors sur ce cinéma de rêve de cinéma, Ciné-Scène, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la programmation? Peut-être même il y a des coups de cœur, des immanquables, des classiques. Si vous pouviez nous parler un petit peu de cette programmation.
Et d'abord de savoir d'où elle est partie.
Et d'où elle est partie,
voilà,
oui.
Parce que ce sujet, je pense qu'il est nourri par peut-être un élément premier.
L'élément premier, c'est que Philippe de Roder, le directeur de la scène nationale des Vaux-Louviers, m'avait demandé d'imaginer quelque chose à partir du spectacle chorégraphique de Palfrenac, Crush, qui propose un voyage à travers l'histoire du cinéma, qui est une sorte de road movie en mouvement. Voilà, ça c'était le point de départ. Donc ce spectacle est présenté lors du Ciné-Scène. Je crois que c'est déjà complet, mais appeler à tout hasard à la billetterie, c'est...
Il reste encore des petites places.
Voilà, c'est un spectacle vraiment, vraiment exceptionnel. Voilà, donc Philippe m'avait parlé de ce spectacle. Moi, je connaissais un peu le travail de Palfrenac. J'en avais discuté avec lui. Et puis, je savais que Pal cherche aussi dans son travail à interroger la notion de réalité, à briser les frontières entre réel et réalité, à inventer une autre temporalité, qu'il aime notamment des cinéastes comme David Lynch. Et voilà, donc étant moi aussi dans une démarche en tant que cinéaste où je réfléchis sur ces questions-là, c'est tout naturellement que donc j'ai proposé cette signature qui est « Cinéma de rêve, rêve de cinéma ». Qui permet aussi, évidemment, quand je dis cinéma de rêve, c'est évidemment des objets qui explorent la question onirique, mais rêve de cinéma, c'est aussi un cinéma exigeant, radical, qui ne se soumet pas au formatage. Voilà.
Donc oui, c'est pour ça qu'on trouvera, pendant, notamment dans la programmation, je vois le dernier de Bellatar, hein, qui est alors là qu'on peut parler quand même une vraie expérience de cinéma.
Oui, c'est très osé, je dirais, d'ouvrir oui, le festival avec ce film-là.
Le Cheval de Turin.
Le Cheval de Turin de Bellatar. Le dernier film de Bellatar, selon les propres mots de son réalisateur, puisque...
Le tout dernier, enfin c'est pas le dernier, ce serait son dernier définitivement.
Son dernier. Il a dit qu'il n'en ferait plus après, et on peut imaginer, parce que faire des films comme les siens, c'est extrêmement compliqué, étant donné la radicalité du geste. Le Cheval de Turin, c'est une splendeur visuellement, c'est
35 mm,
noir et blanc, on dirait, ça évoque, je sais pas, des gravures de Rembrandt par exemple, c'est absolument somptueux, mais effectivement c'est un rythme auquel on n'est pas habitué, qui est très lent, tout est construit en plan séquence, c'est très répétitif, c'est une sorte de... Il raconte la fin du monde en 6 jours, et pendant 6 jours, les mêmes gestes de une jeune femme et de son père se répètent dans une ferme, quelque part, où souffle un vent de fin du monde. Et néanmoins, on fait vraiment une expérience, pour moi, qui est unique, puisque au fur et à mesure que ces actions se répètent, notre conscience du lieu, des corps, s'approfondit. Et c'est un peu comme si on y était au bout d'un moment. Et c'est une invitation, évidemment, à la méditation. Alors, moi, j'encourage évidemment tous les spectateurs à venir découvrir ce film, qui est rare, qui est précieux. Je sais que c'est très compliqué comme proposition. Je pense que ça peut l'être moins si on vient en se disant qu'on vient effectivement méditer. Et méditer, ça peut être très reposant. Je pense pas qu'il y ait de quoi se faire une sorte d'entorse du cerveau, si je peux me permettre l'expression, pour regarder un film de Bellatar. Il n'y a absolument, ça passe pas par la compréhension.
Mais par la sensation et le ressenti, et le lâcher prise, du coup. Donc j'ai vraiment l'impression qu'avec cette programmation que vous nous concoctez, vous allez mettre le spectateur dans un état et le faire entrer dans des mondes, dans des nouveaux mondes, dans des nouvelles sensations. Je vois dans la programmation donc le dernier aussi de David Lynch, le Island Empire, qui a été peu vu finalement dans la région. Où là on est vraiment dans des mondes parallèles, ou le Alice pour les enfants qui nous fait encore entrer dans des autres mondes
et temps et dans d'autres dimensions. Alice de Frankmeier qui lui travaille avec c'est du cinéma d'animation, enfin ça mélange cinéma d'animation et prise de vue réelle. Il crée des créatures extrêmement étranges avec des déchets ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc la frontière entre l'animé et l'inanimé. Oui, la question du festival, enfin qui sous-tend toute la programmation et le festival, c'est qu'est-ce que la réalité? Et effectivement, je propose une expérience, et pour moi-même, je suis très curieux de savoir, enfin de connaître l'état dans lequel je serai après une semaine de voyage comme cela.
Et dans cette programmation, je vois notamment le concert vidéo d'Alexandre Desplat, le Trafic Quintet.
Oui.
Alors là, on nous emmène dans quoi? C'est par la musique qu'on va entrer dans un monde différent, dans un rêve.
Alors déjà, redire qui est Alexandre Desplat, ça c'est vraiment, à mon sens, c'est le point d'orgue du festival. C'est réellement un événement, puisque Alexandre Desplat, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais qui l'ont forcément déjà entendu, c'est un jeune compositeur de musique de film français qui a été déjà nommé aux Oscars pour la musique de L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher, qui est aussi l'auteur de la musique de Tree of Life, dernière Palme d'Or, et également des derniers épisodes d'Harry Potter, par exemple.
Et donc il sera présent le soir, le jour de ce concert, de ce quintet
Il sera présent le dimanche 29 janvier à Évreux, et on se réjouit, on le remercie de sa présence. c'est vraiment un moment ouais, tout à fait exceptionnel.
Mmh.
Et là, on va rentrer, enfin, on va explorer le cinéma et plus particulièrement le rêve américain à travers les musiques de films. Donc, on va voyager de « Il était une fois en Amérique » au « Parrain », en passant par « La guerre des étoiles » et tout ça interprété par un quintet à cordes. Sur des images de Ange Leccia et Dominique Gonzalez Forster, qui sont des vidéastes.
Mmh. Assez réputés aussi.
Oui, très réputés.
Bien, on a hâte en tout cas d'entrer dans ces mondes parallèles. Et donc, pour clore justement notre sujet, vous avez choisi une musique de film, enfin, qui illustre un des films de la programmation, je crois.
Oui, alors j'ai choisi Baby Did a Bad Bad Thing de Chris Isaak, qui est devenu célèbre parce qu'il illustre une scène très érotique entre Tom Cruise et Nicole Kidman dans Eyes Wide Shut, qui fera la clôture de ce ciné-scène 2012. Voilà, c'est un super titre. Que dire de plus? Moi, je suis content aussi pour Chris Isaak. Je me dis que avec ce titre-là et avec le film de Kubrick, on se souviendra de lui pour ça, et puis peut-être moins d'un autre de ses titres qui était excellent, mais qui avait été malheureusement utilisé dans une publicité pour les produits laitiers dans les années 90.
Exactement, oui, c'est vrai. Voilà. Bien, merci Pierre, et on a hâte de vous retrouver à partir du 24 janvier sur toute la semaine à Évreux pour nous emmener dans ces mondes de rêves et surtout de beau et de vrai cinéma.
Moi aussi.
Merci.
Faites de beaux rêves en attendant.
Merci à vous, Pierre Carniaux. Nous écoutons tout de suite Chris Isaak. We'll be right back. Et c'était donc Chris Isaac, Baby Did a Bad Bad Think, bande originale du film Eyes Wide Shut. Et, décidément que de l'anglais, histoire de m'arranger. Je n'en suis pas trop mal sorti pour
super
une fois.
Super bien, super bien.
Voilà. Nous, aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, jour d'Épiphanie, et ça nous a donné envie de revenir un petit peu sur cette histoire. Pourquoi, comment, qu'est-ce que cette fameuse Épiphanie? Alors, c'est le 6 janvier. En général, on s'en accommode en disant que c'est le deuxième dimanche après Noël.
Après Noël, voilà. Dans le calendrier, c'est un petit peu le repère.
Sauf que nous, cette année, c'est tombé de bonne heure le deuxième dimanche après Noël. Enfin bon, donc c'est une fête où on partage la galette tous ensemble, mais qu'en est-il, j'ai envie de dire un peu historiquement,
qu'est-ce que c'est cette épiphanie, voilà.
D'où ça vient? Eh bien, ça vient de très loin, hein, parce que jusqu'au 4e siècle, c'était une fête religieuse, c'était la fête religieuse chrétienne.
Ouais,
c'est-à-dire essentiel. Qu'il n'y avait qu'une seule fête à l'année, c'était l'Épiphanie, qui célébrait tout. Hein. Tout était mis, c'était une célébration un peu du dieu en général.
Bon, ils avaient déjà la notion de mutualisation, finalement, je dirais, qui va plus mal. Mais à l'origine, alors dans la religion chrétienne, c'est vraiment les rois mages qui viennent rendre hommage à l'enfant Jésus, qui vient de naître et qui honore sa présence. Donc c'est Dieu matérialisé en corps humain à travers Jésus en lui offrant des cadeaux.
Alors effectivement, cette fête par-delà, mais c'est païenisé, je ne sais pas si on dit comme ça.
Oui, oui.
En tout cas, c'est païenisé, cette fête, parce que, notamment, a été introduit l'idée de la galette, du gâteau de fête, au XIVe siècle. Ce n'est pas tout jeune, comme vous le voyez. Tout à l'origine de ce gâteau, on est sur les Romains, les fêtes romaines et notamment la fête saturnale romaine. Les Romains, alors pour la petite histoire, les Romains désignaient un esclave pour être roi un jour. Et cette désignation était faite par une fève dans un gâteau. Voilà. Alors cette journée, c'était la seule journée de l'année où un esclave donnait des ordres au maître.
Donc les rôles étaient inversés.
Les rôles étaient complètement inversés, mais attention quand même, hein, on voulait bien inverser, mais il fallait pas exagérer. Beaucoup d'esclaves qui avaient été rois étaient mis à mort le lendemain quand même. Hein. Fallait pas qu'ils exagèrent. Il fallait pas exagérer non plus.
Les pauvres.
Donc voilà. Bah oui, c'est l'époque des Romains.
C'est l'époque. Hein. Voilà, on plaçait l'autorité très fortement.
Donc voilà d'où ça part. Alors autour de cette galette, la galette change de recette, de forme, de constitution en fonction des régions du monde, mais aussi des régions même en France d'ailleurs.
Oui, hein. Oui, on l'adapte, je crois maintenant un peu à chaque tradition culinaire de la région. Par exemple, la galette des rois aux pommes, il y a qu'à peu près en Normandie qu'on trouve ça, je pense.
Oui.
Voilà.
Peut-être en Bretagne.
En Bretagne peut-être aussi. Après, c'est vrai que dans certaines régions, c'est plus une brioche et non pas la pâte feuilletée avec la frangipane qui vient. Mais oui, donc c'est finalement aussi, je pense, une fête du partage. Et on est proche aussi à un moment où on va rompre le jeûne, enfin, où on va un petit peu plus se nourrir, être dans les choses plus riches de l'hiver. Et puis aussi, c'est partagé, c'est un moment convivial où on partage. Et je crois qu'on gardait toujours aussi, à l'origine, une part pour le pauvre, enfin, pour la personne improbable ou autre qui viendrait.
L'invité surprise ou le pauvre frappant à la porte historiquement. Alors le jour des rois, donc l'épiphanie, le jour des rois, dans la culture latine, espagnole, portugaise, c'est également le jour des cadeaux, le jour où les cadeaux sont remis aux enfants. Alors deux trois petites anecdotes, une d'ailleurs sur la galette. Il y a une particularité, c'est la galette des rois qui est faite à l'Élysée, donc à la présidence de la République, n'a pas de fèves.
Et pourquoi donc?
Eh ben parce qu'on ne va pas non plus couronner un président.
Président n'est pas roi, c'est-à-dire que nous avons déjà décapité la royauté. Mais bon, il y en a qu'on n'a pas besoin finalement.
Voilà, alors attention, si vous êtes tiré roi lors d'une galette, sachez qu'il y a une tradition également qui dit que le roi paye la galette suivante, offre la galette suivante. Ne passez pas à côté, ça pourrait vous fâcher avec l'ensemble de vos collègues ou de votre famille.
Bien sûr. Et puis, c'est aussi par rapport à la tradition du tirage et de la répartition des parts. Souvent, c'est les plus jeunes qui vont sous la table pour pouvoir désigner à qui va la part. Donc c'est souvent aussi un petit moment ludique en famille proposé.
Et puis dans les associations hébroïciennes et partout d'ailleurs en France, c'est l'occasion aussi de faire la fête régulièrement. Enfin, quasiment toutes les associations proposent une galette des rois dans le mois de janvier, parce qu'on a tout le mois à peu près pour le faire. C'est convenu comme ça, nous avons tout le mois pour le faire.
C'est vrai que nous, maintenant, c'est devenu un moment où on se retrouve, on se rassemble autour d'une galette, on partage. On coupe quelque chose de commun et on se le partage.
Voilà, nous voulions partager également un petit bout de galette avec vous.
Et puis bonne galette, tirez. Voilà, partagez les rois avec ceux que vous appréciez.
Eh bien, c'est l'heure de retrouver notre agenda.
Alors
Nathalie, qu'a-t-on dans l'agenda pour ce mois-ci?
Alors, l'agenda du mois de janvier dans les sorties en spectacle vivant et autres. Vous avez donc Matrioshka, le spectacle jeune public, danse et art visuel de Thiago Guedes, le 7 janvier à 17h à Évreux au Cadran et le 14 janvier à 19h30 à Louviers au Théâtre du Grand Forum. Spectacle de danse Iman de Filippa Francesco le 10 janvier à 20h30 au Cadran. Lula Pena dont nous avons parlé, dont nous avons eu un extrait musical, le vendredi 13 janvier à 20h30 au Cadran. Tout ça donc dans la programmation du Focus Portugal proposé par la scène nationale Évreux-Louviers. Et puis, il y a également La Tempête de Shakespeare qui sera proposée au Moulin les 17 et 18 janvier. Le dimanche d'avant, vous avez Psy, donc c'est un petit clin d'œil parce que au cirque et donc dans la programmation du Cirque Théâtre d'Elbeuf également. À Vernon, à l'espace Philippe Auguste, vous avez le Tartuffe qui sera présenté le dimanche 20 janvier. Et enfin, comme nous l'avons annoncé notre invité Pierre Carniaux, le ciné-scène avec des rêves le cinéma de rêve et rêves de cinéma qui est proposé du 24 au 31 janvier à Évreux et notamment au ciné Pâté d'Évreux. Voilà pour les spectacles que nous avons repérés sur le mois de janvier. Et puis plein d'autres sorties, donc ces sorties vous sont proposées et je pense qu'elles peuvent rassembler et la famille et puis tout à chacun, finalement.
Eh bien, nous terminerons cette émission avec notre musique dans le monde. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous arrêter en Australie avec la musique aborigène. Alors la musique aborigène, c'est donc les aborigènes sont les peuples historiquement d'Australie avant les colonies, qui ont toute une panoplie d'instruments assez particuliers à l'Australie et notamment à cette culture aborigène. Alors dans ces instruments particuliers, il y a forcément le didgeridoo qui a traversé les frontières, appelé également yidaki.
Donc ce fameux tube de bois où le son sort du souffle et de l'air contenu dans cet instrument qui donne un son assez impressionnant, c'est vrai. C'est une musique extrêmement ancestrale, enfin très 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 ancienne. Parce que le peuple aborigène est quand même un peuple primaire extrêmement vieux, enfin voilà, très très ancien.
Donc d'autres instruments existent, la rombe, si je ne m'abuse. Ils utilisent également le boomerang comme instrument de percussion, enfin un tas d'autres.
Finalement, on s'aperçoit que c'est beaucoup d'instruments qui utilisent le vent, le souffle dans cette société.
Voilà, je vous propose pour conclure cette émission d'en écouter un extrait. Nous vous donnons rendez-vous le 3 février pour le numéro de février de Scène de vie, toute scène.
Ce sera donc, la cinquième émission de la saison et la deuxième de l'année.
Exactement. Et bien sûr, passez un bon mois de sortie.
Bonne galette et bon spectacle alors.
Et nous vous laissons avec de la musique aborigène.